Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Français mon beau souci de Michel Mourlet, assisté de Catherine Distinguin, diffusé en direct lundi 17 septembre 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aurons le grand plaisir d'accueillir Yves Montenay, que nous avons déjà reçu à notre émission. Et nous accueillerons également, mais par téléphone, l'écrivain bruxellois bien connu, Christopher Gérard, que nous avons également déjà reçu à plusieurs reprises, et qui vient de publier un livre. Mais auparavant, naturellement, nous allons passer aux informations courantes ou moins courantes, ça dépendra. Et je vais demander à Marc Favre-Deschalins de nous donner les dernières nouvelles de notre combat.
Merci Michel, bonjour aux auditeurs. Alors je rappelle toujours les références téléphoniques de défense de la langue française, 01 42 65 08 87, son site internet www.langue-française-cdi.org et son adresse internet dlf.contact@orange.fr. Alors effectivement, nous avons beaucoup d'actions et d'événements qui, à venir d'ailleurs. En particulier, il va y avoir un déjeuner débat qui aura lieu le jeudi 18 octobre au restaurant Le Congrès avec comme invité d'honneur François Taillandier qui va nous présenter son nouvel ouvrage Edmond Rostand, L'homme qui voulait bien faire, aux éditions de l'Observatoire. Donc les personnes intéressées peuvent appeler au numéro que j'ai cité il y a un instant. Concernant les actions de Défense de langue française et des autres associations, il y a une action commune concernant un projet pour modifier la loi Toubon afin d'autoriser les collectivités locales ou régionales à utiliser des slogans en anglais, comme l'on voit malheureusement un peu partout, Loire-Valais et autres slogans ou accroches en anglais. Donc là, il y a une action. C'est un député qui s'appelle Philippe Betta, ou Berta, qui est un modem, je crois, qui a lancé ce projet néfaste. Donc il y a une action assez importante. Et également, les actions des associations, en particulier de Défense de la langue française, à l'encontre de Peugeot, qui met énormément, non seulement de slogans, mais dans ses voitures, toutes les indications des nouveaux tableaux de bord sont en anglais. Donc il y a une action qui est menée par les associations pour faire.
Il sera une cause d'accident parmi les Français qui ne parlent pas l'anglais.
Oui, d'abord. disons que c'est une cause au minimum de complications, même si les termes sont maintenant connus, mais c'est le principe. Il y a également une action, des courriers qui ont été envoyés à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports, pour le projet French Mobility, parce qu'on le voit un peu partout, que ce soit dans le domaine public ou commercial, les terminologies anglaises sont maintenant font florès.
Ça fait partie carrément du paysage. Ah, oui,
exactement. C'est absolument, les titres sont en anglais, c'est indiqué après, on peut comprendre, mais avec des vocabulaires relativement. Bon, ça s'est parti avec le sharing de France, des Jeux Olympiques Paris 2024, mais maintenant c'est vraiment un petit peu, c'est vraiment malheureusement très très courant. Nous avons des actions aussi plus dont l'action est sur la qualité de la langue. En particulier, on a un membre très actif de la délégation de Paris de France de défense de la langue française concernant la terminologie et la qualité de la langue, emploi de déroulé au lieu de déroulement, emploi de terminologie anglaise, vintage, des choses comme ça. Donc là, c'est la qualité de la langue. Nous écrivons, Claude Chapoteau écrit.
Il n'y a pas que les anglicismes.
Non, il y a la mauvaise.
Il y a les fautes de français.
Les fautes de français.
Qui sont en train de s'installer
définitivement. Et puis l'invention, comme au lieu d'employer le mot déroulement d'une action, on peut le dérouler. Donc c'est du français, on ne sait pas trop d'où ça vient.
Je pense par exemple à une faute quand on était en 8e ou en 7e. À l'école, on nous tapait sur les doigts parce qu'on disait « je m'en rappelle, je me rappelle de ça ». Bon, et bien maintenant, tout le monde dit ça dans les dialogues de films, de téléfilms, etc. C'est automatiquement « je me rappelle de ça, tu te rappelles de ça », etc. C'est vraiment devenu la règle, pratiquement.
Incroyable. Il y a le « en charge ». Donc là, c'est rappel sur la qualité de la langue qui est indispensable. Donc ça, ce sont nos actions habituelles, les actions aussi concernant avec nos conseils et nos avocats. Donc là, c'est toujours un petit peu plus long et compliqué. Et puis, je conseille aussi aux auditeurs de téléphoner au 01 42 65 08 87 pour avoir un exemplaire de la revue Défense de la langue française. Cela sera remis à leur demande. Ça permet de la revue Défense de la langue française, qui paraît 4 fois par an, permet de voir à la fois nos actions et puis des informations sur la langue, sur l'évolution, sur les mots nouveaux. Et également les mots qui disparaissent. Donc il y a également une chronique qui s'appelle le tableau d'horreur et le tableau d'honneur voilà. Donc ça c'est pour la rentrée. Je conseille aux auditeurs de prendre contact avec Défense de la langue française et les autres associations Avenir de la langue française, naturellement, que nous connaissons bien par votre ami Albert Salon. Voilà, je laisse la parole.
Très bien, votre petit exercice d'autopromotion.
Voilà.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Merci, Marthe. Catherine, avez-vous quelque chose à nous raconter, vous?
Oui, Michel. Bonjour, chers auditeurs. Vous écoutez donc Radio Courtoisie. Français, mon beau souci de Michel Moulet. Et en cette rentrée scolaire et littéraire, je voudrais peut-être vous signaler deux ouvrages qui peuvent intéresser nos auditeurs. L'Encyclopédie Universalis publie un très joli coffret, L'essentiel de Maurice Grévis, en 3 volumes. Le premier est intitulé « Le petit Grévis », mais il n'a rien d'un petit ouvrage. Le deuxième, « Le français correct », qui est un guide pratique des difficultés de la langue française. Et le dernier, des exercices de grammaire, eh bien pour tester vos connaissances. C'est un beau coffret et vous pouvez avoir toutes les informations sur le site, sur l'adresse courriel grève, comme Grévis, grev@universalis.fr. Je le recommande. Alors, deuxième ouvrage, qui est un essai, celui-là, de Jean-Michel de La Comté, qui s'intitule « Notre langue française », édité chez Fayard. Alors, Jean-Michel de La Comté, on le connaît grâce à tous ses portraits littéraires de la Boétie, Montaigne, etc. Il a enseigné la littérature française à l'Université Bordeaux-Montaigne et ensuite, jusqu'en 2012, à Paris 8. Et il publie donc chez Fayard ce nouvel essai qui est très riche et qui traverse, pour s'en émerveiller, l'histoire de notre langue. L'auteur, dans cet ouvrage, s'inquiète. Il craint que la standardisation, l'obsession de l'égalité par le bas, la technicité triomphante, la novlangue, le déracinement, ne porte aux Français un coup fatal. Il soutient donc que la progressive rupture du lien qui unit notre langue à ses origines politiques et littéraires puisse dans un proche avenir ruiner sa vigueur, son identité et son esprit. Voilà, donc c'est un livre de réflexion extrêmement intéressant et remarquablement écrit. Voilà, chez Fayard. Jean-Michel de La Comté, Notre langue française. Merci.
Eh bien, merci à vous, Catherine. Merci de ces bonnes informations. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que, en ce qui concerne Grévis, il me paraît indispensable, quand on s'intéresse vraiment à la langue française, de posséder ce qu'on appelle toujours le Grévis, d'ailleurs, c'est-à-dire ce volume qui, depuis, je ne sais pas, 50 ans à peu près, fait la loi, en quelque sorte, dans le domaine de la langue. Alors, je voudrais maintenant vous donner de mon côté quelques informations, au moins une. C'est pour annoncer la soirée des amis de Livre Arbitre. Livre Arbitre est cette revue littéraire que vous connaissez certainement et qui vient de publier son 26e numéro de la nouvelle série, numéro qui est consacré en grande partie à Joseph Zelteil et à Guy Dupré. Mais il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr. Je rappelle déjà l'adresse électronique du site de Livre Arbitre, qui est www.livrearbitre.com. www.livrearbitre.com. Donc, ce petit volume, c'est, parce qu'on pourrait presque parler d'un livre hein, pour cette revue, plus que d'une revue, c'est assez volumineux, fait l'objet d'une signature dédicace le vendredi 5 octobre, dédicace par les auteurs maison, naturellement, qui... non seulement signeront si, éventuellement la revue, mais leur propre livre, naturellement, leur propre production. Et cette soirée, donc, du 5 octobre, aura lieu au Molière, 12 rue de Bussy, 75006, 12 rue de Bussy, le Molière, à partir de 20h. Et la seule condition... c'est non seulement de montrer patte blanche, mais de commander à l'entrée une petite consommation. Voilà, et avec ça, après, vous êtes tranquille et vous vous amuserez beaucoup. Parce que ça sera une très belle soirée, comme d'habitude. Maintenant, je voudrais vous parler de l'un ou deux messages que j'ai reçus, qui sont d'une part... Ce message d'un auditeur qui nous avait déjà écrit pour nous demander ce qu'il en était de la CGT et de son action éventuelle en faveur de la langue française. Alors j'avais répondu et cet auditeur récidive en disant « Est-ce que la CFDT et FO font de même pour défendre et promouvoir la langue française contre l'invasion de l'anglais ?» Alors ça, j'avoue que je ne peux pas répondre, mais je suggère, comme je l'avais fait d'ailleurs précédemment à cet auditeur, de consulter Albert Salon, qui a certainement des lumières sur ce sujet. Autre message, celui d'une auditrice, qui est le docteur Bailey, qui m'envoie un extrait d'une revue, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, hein, je l'ai sous les yeux, là, c'est une sorte de revue médicale, où un médecin, en gros titre, déclare « Le service sanitaire offre l'avantage d'une relation peer-to-peer ». Bon, alors, c'est en gros caractère dans la page de la revue. J'avoue que moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mon voisin d'en face me souffle que ce serait une relation professionnelle d'égal à égal, enfin une relation en somme de même niveau entre celui qui demande et celui qui répond. Bon, je pense qu'on peut traduire ça comme ça, mais évidemment, il doit y avoir des façons plus élégantes de le formuler, mais sûrement pas, en tout cas, la relation pire tout pire. Voilà. Alors, en attendant d'appeler notre correspondant, Christopher Gérard, je vais vous présenter Yves Montenay, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui. Donc, nous appelons Christopher Gérard en attendant.
Tout à fait. Hein,
voilà. Alors, j'ai le plaisir donc de recevoir Yves Montenay, que nous avons déjà reçu d'ailleurs, qui est écrivain et journaliste aux Échos, qui est docteur en géographie humaine, qui est président de l'ISEG, Institut Culture, Économie et Géopolitique, et qui est en train de raconter ses souvenirs en ligne, je crois. Ça n'est pas encore publié en livre, ça sera peut-être...
C'est sur mon site, tout le monde peut le consulter.
C'est sur votre site, c'est ça.
C'est bon, Michel.
Et on me dit que Christopher Gérard est en ligne, donc je le prends. Allô, bonjour Christopher.
Bonjour cher Michel, bonjour Catherine.
Je suis heureux de vous recevoir par l'oreille, sinon physiquement, c'est bien dommage, mais j'aurais bien souhaité vous avoir autour de nos micros. Mais nous allons essayer tout de même de bavarder un petit peu au sujet de votre dernier livre, que je suis en train de chercher dans ma serviette, excusez-moi, le voilà. Donc, Le Prince d'Aquitaine, qui vient de paraître chez Pierre-Guillaume de Roux, et qui, moi, m'a tout à fait intéressé, et plus que ça, même passionné, je dirais, et qui est d'ailleurs très différent de ce que vous faites habituellement. J'aurais une première question, après on reviendra un peu sur le sujet, mais j'aurais un peu, enfin une question à vous poser, qui serait la suivante. J'ai le sentiment que cet ouvrage, ce livre, que vous avez signalé comme étant un roman sur la couverture, j'ai l'impression que ce que André Malraux appelait un machin, et que, terme d'ailleurs qui m'a été transmis par André Frédoux, comme vous le savez peut-être, un machin, c'est-à-dire le livre qu'on écrit, le premier livre en quelque sorte qu'on écrit. Or, vous l'écrivez au bout d'un certain nombre de livres qui n'étaient pas du tout des machins. Alors, est-ce que vous souscririez éventuellement à cette idée que vous avez publié votre machin plus tardivement que d'autres ?
Oh, mais je veux bien, va pour machin, si c'est flatteur, bien sûr.
Non, mais c'est flatteur, vous savez, dans la bouche de Malraux, c'était quelque chose d'important, parce qu'il avait le sentiment, lui aussi, d'en avoir publié un, et Frégnaud également, et puis d'autres personnes aussi. Enfin, en général, c'est le livre qu'on écrit un peu au début, pour se soulager, en quelque sorte, de différentes choses qui n'étaient pas forcément très agréables dans sa jeunesse. Bon, alors, donc, vous seriez un peu d'accord là-dessus. C'est votre machin, en quelque sorte.
Disons que oui, le prince d'Aquitaine est une sorte de machin.
Voilà. Alors, ce machin, puisque vous acceptez cette définition, il se termine par un mot grec qui est « catharsis ». Alors, c'est un mot auquel il faut prêter une grande attention, je crois, parce que c'est le mot de la fin, c'est le cas de dire, et ce mot de la fin éclaire évidemment tout ce qui précède. Donc on peut en conclure, en déduire que ce livre n'est pas entièrement un roman de fiction, si je puis dire.
Oui, en fait, catharsis, en grec, c'est la purification.
Et voilà.
On sait depuis Aristote que ce qui caractérise une tragédie, c'est la catharsis, c'est-à-dire que le spectateur, puisqu'à l'époque les tragédies étaient des spectacles bien sûr, le spectateur de la tragédie doit à l'issue du spectacle être transformé et avoir subi une purification, c'est-à-dire une métamorphose de son niveau de conscience. Et c'est en fait ma vision de la littérature. La littérature n'est pas un jeu, comme disait Julien Green, mais la vie même. La littérature et toute œuvre d'art en général, que ce soit une peinture, une sculpture, ou un roman ou un sonnet, ont, à mon sens, pour objectif de métamorphoser le spectateur, l'auditeur, le lecteur, et de le rendre, si possible, meilleur. Donc ça, c'est le sens de cette catharsis, ce qui évidemment permet de rebondir sur ce que vous avez dit, et sur ce que m'ont dit quelques premiers lecteurs, à savoir, s'agit-il d'un texte autobiographique ? J'insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'une création littéraire, et que les éléments éventuellement autobiographiques ont été métamorphosés, brouillés, par l'auteur, par l'artiste. Disons que c'est la création artistique qui prend le dessus sur les éventuels souvenirs sur lesquels je n'ai pas à m'expliquer.
Oui, alors, justement, quand vous parlez de catharsis et de la pensée d'Aristote à ce sujet, qui d'ailleurs, je le précise, tient en quelques lignes dans la Poétique, hein, on n'a pas beaucoup de détails sur cette catharsis en réalité, puisque une grande partie du texte d'Aristote a été perdue, malheureusement, et on en est réduit un peu à des conjectures. Hein. Mais enfin, ce que vous dites, donc, au sujet de la tragédie et de la relation entre la tragédie et le spectateur, correspond tout à fait à ce que voulait dire Aristote, qui le disait d'ailleurs plutôt au sujet de la musique, je crois. Mais en ce qui concerne le créateur lui-même, l'auteur lui-même, il semblerait qu'il y ait aussi un phénomène analogue et que l'auteur d'une œuvre d'art, lui aussi, sort transformé de sa propre création. Ça n'est pas uniquement... il y a une relation, comme on disait tout à l'heure, peer-to-peer. Hein, ça doit être ça, à peu près.
C'est anglais, mon Dieu.
Non, mais vous n'avez pas entendu le début de l'émission, parce que nous avons un peu ironisé sur un médecin qui parlait de cette relation peer-to-peer, dont personne ne comprenait vraiment le sens.
Oui, exactement. Oui.
Voilà. Alors voilà. Donc...
Non, bien sûr, c'est très bien vu. Évidemment, le créateur lui-même se métamorphose au fur et à mesure de sa création, puisque, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu gratuit, ce n'est pas un jeu verbal.
Voilà.
La peinture n'est pas un barbouillage. Voilà. Et l'écriture d'un sonnet ou d'un roman n'est pas un exercice strictement rhétorique desséché. Et en ce cas, tout à fait inutile.
Voilà.
L'écriture d'un roman, en tout cas l'écriture du prince d'Aquitaine, pour moi, était le moment d'une sorte de métamorphose, de purification, comme l'écriture de tous mes romans.
Voilà, parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bon, on parle beaucoup d'autofiction actuellement, on en parle depuis un certain temps, c'est un mot d'ailleurs qui a été créé dans les années 70, je crois, et mal formé, puisque c'est un hybride de latin et de grec. Autrefois, quand les gens parlaient à la fois grec et latin, ils formaient des mots convenablement, c'est-à-dire entièrement grec ou entièrement latin, d'origine, d'étymologie, alors que maintenant on fabrique des mots avec ces deux langues, bientôt il y en aura trois, enfin, c'est n'importe quoi. On avait un précédent, d'ailleurs, c'était autobus, hein, qui est venu de auto grec et omnibus latin. C'est le premier exemple, je crois, qu'on ait de monstres créés par le docteur Moreau, vous savez, sur son île, fabriquer des chimères, et maintenant il y a des gens qui fabriquent des chimères lexicales, comme ça. Alors donc, l'autofiction, je suis obligé d'adopter malgré mes réticences, on en parle beaucoup, Mais j'ai l'impression que le problème est un petit peu mal posé. Enfin, je vous demanderai ce que vous en pensez. Parce que il me semble que Corneille, par exemple, quand il crée un héros héroïque, enfin un personnage héroïque, il se rêve héroïque à travers son héros. Donc c'est de l'autofiction, en quelque sorte. Quand Stendhal promène les siens, ses personnages...
Oui, Henri Brulard. Hein,
oui. Oui, d'abord, c'est déjà... Mais même Fabrice Del Zongo, même... Bon, ce sont, non seulement ce sont des êtres qu'il a créés à partir de lui-même, mais qu'il promène dans des paysages qui l'ont marqué, etc. Donc tout ça, c'est de l'autofiction aussi. Je crois qu'il n'y a pas un seul roman ou un seul texte de fiction qui ne soit pas en même temps d'autofiction. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais oui, en fait, tout le problème est de savoir de ce qu'on définit par l'autofiction. Je pense qu'on a voulu décrire une forme d'infra-littérature. Je ne citerai pas de nom, mais enfin, il y a une dame qui publie une autofiction tous les ans et qui vient d'en publier une tout récemment, où justement, il n'y a aucune distance entre, et c'est le mot distance qui est important, le mot ironie aussi, aucune distance, aucune ironie entre le narrateur et l'auteur. Évidemment, le propre de la création littéraire, c'est que l'auteur se nourrit de ses expériences, de ses méditations, de ses réminiscences, de ce qu'il a pu observer tout au long de sa vie d'homme et sa vie de lecteur, mais métamorphosé, bien sûr. Métamorphosé et passé par l'athanor de l'alchimiste, c'est-à-dire qui transforme le plomb, le vil plomb, en or fin. Et c'est ça la tâche de l'artiste, la tâche de l'écrivain, c'est de transmuter ce plomb de l'existence, c'est ce que j'essaie de faire dans Le Prince d'Aquitaine, qu'on doit évidemment lire comme un livre, comme un roman initiatique et un roman symbolique, puisque l'aspect éventuellement autobiographique importe peu, en fait n'importe pas. Ce qui compte, c'est la description d'une tragédie en trois générations qui commence à l'été 14 et qui s'achève de nos jours par le dernier mot du roman, catharsis, la purification.
Voilà, alors justement, puisque nous en sommes là, et pour conclure en quelque sorte, je vais vous demander de, non pas de raconter le contenu du livre, mais enfin de nous donner un aperçu un petit peu de ce qui est raconté dans ce livre en quelque sorte, parce que là vous avez dit deux trois mots qui nous donnent envie de connaître un peu plus l'intérieur, enfin.
Voilà, en fait, Le Prince d'Aquitaine est un itinéraire qui est à la fois esthétique, affectif et philosophique, et qui s'étend sur plus d'un siècle. Il commence par l'explosion d'un obus allemand à l'automne 1914, sous les murs d'Anvers, où un personnage, qui est le grand-père, la figure archétypale du grand-père, est mutilé. Ce qui symbolise évidemment le destin d'une génération, la génération sacrifiée de l'été 14 et des années terribles qui ont suivi.
Ouais.
Et cet itinéraire dure, disons, un siècle et illustre à sa manière l'importance qui a été longtemps, disons, occultée ou inconnue en tout cas, des blessures transgénérationnelles. Comme quoi, un obus qui explose en août 14, ou en octobre 14 ici, peut avoir des conséquences jusqu'à un siècle plus tard, ce qui est le cas dans le roman, puisque le grand-père mutilé va donner naissance à un fils, qui est la figure du père dans le roman, une figure qui symbolise une certaine époque, une figure de père complètement failli, un débauché, un alcoolique, personnage tout à fait possédé par des forces négatives et autodestructrices, père à qui s'adresse le narrateur du livre, qui est donc le petit-fils.
Oui, ça c'est le point important qu'il faut souligner.
En fait, une tragédie en trois générations.
Voilà, et ce qu'il faut souligner, c'est la forme originale du livre, qui est une apostrophe finalement, c'est-à-dire que ce n'est pas au style indirect, c'est le fils qui s'adresse directement à son père, et tout au long du livre. C'est une forme assez peu commune, mais on peut le dire, ça a existé, mais enfin assez rarement, d'écriture d'un roman. Je crois qu'il faut le signaler à nos auditeurs. Dernière question, Christopher. J'étais un peu intrigué par ce chapitre qui est en forme de théâtre, d'une scénette de théâtre, et qui s'intitule « Les chaises ». Parce que c'est un hommage à Ionesco
ou... Oui, c'est un hommage indirect à Ionesco et qui permet de jouer, là il y a une part de jeu, n'est-ce pas,
oui.
Puisqu'il s'agit d'une sorte de parodie de thérapie familiale.
Voilà, c'est ça. C'est,
et ça
c'est...
permet en fait de dépeindre les personnages de manière assez cru,
assez cru et de manière assez distanciée et très très objective, enfin parce qu'il y a des indications scéniques, des choses, et ça met très en relief, je trouve, la distance que le narrateur,
voilà,
enfin prend par rapport à sa famille, enfin c'est la
distance et l'ironie, puisque
l'ironie, bien sûr,
de la pensée tragique, c'est quand même l'ironie. Hein.
Absolument. Eh bien, écoutez, Christopher, je pense que nos auditeurs auront envie de connaître votre livre. Est-ce que on peut dire que c'est une parenthèse dans votre œuvre, ou bien est-ce que ça indique peut-être une nouvelle direction ? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ?
Oh, c'est encore un peu tôt. Mais
oui, c'est un peu tôt. Oui.
C'est un livre qui vient, c'est une des briques qui s'ajoute à l'édifice en construction.
Très bien. Eh bien, nous allons en rester là et espérer que cette construction va continuer à s'élever vers le ciel. Et je vous remercie, Christopher, et nous attendons avec impatience de vous recevoir en chair et en os.
Merci.
Un jour dans notre émission. À
merci.
Bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci. Bon. Alors, nous allons maintenant arriver à notre ami Yves Montenay qui est en face de moi et dont je disais tout à l'heure qu'il était en train de rédiger en quelque sorte ses mémoires, mais enfin quelque chose comme ça, son itinéraire, de retracer son parcours intellectuel concernant notamment la géopolitique, je pense, et tous les sujets qui lui importent, dont la francophonie. Alors, est-ce que vous pouvez, cher ami, nous donner quelques détails sur cette entreprise de mémorisation, en quelque sorte?
Oui. Alors, j'en ai ressenti le besoin un peu comme tout le monde, et notamment parce que j'ai comme interlocuteur des enseignants d'histoire et géographie qui sont emportés par les passions que vous devinez, les passions politiques, et qui perdent un peu le contact avec l'histoire vécue. Donc, j'ai essayé de ne pas trop me souvenir de ce qui se passe aujourd'hui pour raconter ce que l'on sentait alors et qui, j'espère, chez eux, amènera quelques échos, peut-être d'erreurs de perspective à gommer ou des choses comme cela. Et puis, pour le plaisir, d'abord.
Bon, alors, est-ce que vous allez nous donner tout de même, ça c'est le paysage, mais est-ce que vous allez nous donner quelques informations et quelques détails sur le contenu de ce parcours initiatique, en quelque sorte?
Alors,
vous avez commencé, comment? Le point de départ, déjà.
Le fil conducteur, ce sont des souvenirs, des flashs de journaux. Les premiers, c'est la guerre de Corée.
Ah, les flashs de journaux, c'est
ça. Les flashs de journaux, c'était le Figaro.
Vous appuyez sur des informations comme ça de journaux.
Alors, c'est dans ma tête, c'est de mémoire. Hein.
Ah d'accord, vous ne reprenez pas le
texte. Je n'ai pas repris,
oui,
parce que j'avais peur évidemment d'avoir un autre avis qu'à l'époque. Bon, donc le Figaro, c'était à l'époque des grands récits, des grands reportages, oui, et notamment les héros du bataillon français de Corée. Donc les premiers textes dont je me souviens, les premiers textes de presse, et à partir de ça, je me forge une idée du monde qui évolue très vite d'ailleurs. Donc il y a d'un côté les grands reportages, et d'un autre côté, ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire j'étais dans une ville à dominante communiste avec une forte minorité catholique, qui, non pas s'opposaient, mais c'était deux univers tellement différents que je passais de l'école et des environs d'école à un univers communiste à chez ma grand-mère, un univers catholique, dans les deux cas, complètement dépassé aujourd'hui.
C'était Pépone et Don Camillo, en quelque sorte, la fameuse confrontation entre les communistes et les catholiques en Italie. C'était quelle ville là, dont vous parlez ?
Mon réflexe, c'est que j'ouvrais les yeux ronds, en disant qu'est-ce que c'est que ça et comment le comprendre. Bon, on passe devant une affiche Staline, père du peuple.
Ouais.
L'affiche suivante, Thorez, fils du peuple. Bon sang, pourquoi c'est son grand-père ? Et ça, c'est tout à fait au début, quand j'ai 10 ans.
Oui, oui, oui.
Et puis, ça se précise, j'arrive chez ma grand-mère qui me sort évidemment la presse pour enfants catholiques, avec de valeureux scouts, et des choses tout à fait intéressantes d'ailleurs.
Bien sûr.
Et, qui aujourd'hui paraissent un peu bizarres. Et le malheureux... Et à un moment, il y a un malheureux grec orthodoxe, ça je sais aujourd'hui ce que c'est qu'un grec orthodoxe, à l'époque je ne savais pas, qui couvre l'autel des scouts catholiques bien sûr, et les couvre de vases précieux, de tentures, etc. Et les scouts sont. Le chef scout arrive et est scandalisé, mais le grec à la porte, qu'est-ce que c'est que ça ? La religion, ce n'est pas une question d'argent et d'offrande. Depuis, je suis allé dans beaucoup d'églises et de monastères orthodoxes, et je vois que le grec s'était conduit tout à fait naturellement.
Bah, évidemment, évidemment. Ils ont gardé un sens du spectaculaire et même du dramatique. Enfin, il y a une espèce, dans leur rite et dans leur rituel, il y a quelque chose qui est complètement perdu, d'ailleurs maintenant, par l'Église, hein, je crois. Et ce qui n'est pas forcément un bien.
Donc les univers s'ajoutent. Au début, on ne comprend pas bien comment ils s'articulent.
Oui.
On constate que les vieilles âmes catholiques cousent des gants au fil d'or pour l'envoyer au pape, et que des vieilles dames communistes font de même pour Staline.
Voilà.
Mais c'était ouf.
Je me demande où passaient tous ces gants. Et petit à petit, bon, ça se met en ordre. D'abord, il y a les événements de Hongrie en 1956.
Oui.
Couvert par Paris Match, qui a laissé son reporter, d'ailleurs, je me souviens encore de la mort du reporter. Et donc, ça a acheté un froid chez mes camarades communistes. Et puis, on a vu arriver des réfugiés de Hongrie. Donc, les choses évoluent petit à petit. À un moment, j'ai le soupçon que le Figaro est sympathique, mais cultive un peu la sensibilité nationale. J'ai rien contre une sensibilité patriotique, mais on sent que on ne sait peut-être pas tout. Et donc je passe au Monde, qui était décevant aussi, mais ça c'est en 54 déjà.
Oui.
Le Monde, parce qu'il fait la morale à cette époque, il le fait encore un peu aujourd'hui, mais à cette époque c'était flagrant. Ah, je suis le journal de référence, voilà ce qu'on disait. C'était surtout des juristes à l'époque qui tenaient les éditoriaux du Monde.
C'était comment il s'appelait pas
alors le grand juriste, celui qui a fait du droit constitutionnel, comment s'appelle-t-il déjà ?
Oui, j'ai oublié.
C'était, ça sentait son principe juridique idéaliste, ce qui est très bien, mais c'était un bon contraste avec les échos. C'était un contraste avec l'humanité, parce que l'humanité était affichée partout.
Voilà.
Voilà. Donc petit à petit, alors après ça se complique parce que je vais à l'étranger, l'Allemagne, où je suis très bien reçu intellectuellement. J'ai pas accroché du tout avec les enfants de mes correspondants qui couraient des magasins de vêtements, mais avec la grand-mère qui était assez érudite et qui voulait mieux connaître la France. Et derrière ça, il y a eu un excellent professeur d'allemand.
Ah.
Excellent professeur d'allemand qui a commencé à nous apprendre l'allemand par des poèmes. Évidemment, ça marque. On se souvient.
Ah, oui.
Et alors on remarque que Heine, c'est presque du français traduit en allemand, tellement il est proche de la culture française. Il a vécu en France souvent d'ailleurs, je crois.
Oh, oui.
Et d'autres, c'est plus compliqué. Et indirectement, on a des idées à la fois de la grammaire, de la langue, bien sûr, c'est le travail du prof. Il était très dur, on l'appelait Hitler. Hein. Il était très très dur. Mais c'était efficace. Et aujourd'hui, je crois que je parle un allemand bien plus correct que mon anglais. Bien que j'ai peu l'occasion de le pratiquer,
oui.
Malheureusement, parce que l'allemand, c'était une grande langue. On sortait de la guerre, il fallait absolument parler allemand. Et puis, on voyait dans la presse que les colloques de chimie, de médecine, se faisaient en allemand.
Ah.
Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Pas grand-chose de tout ça, côté linguistique. Hein.
Mmh.
Les Allemands vont au colloque, parlent en anglais. Où il y a bien des sondages qui montrent qu'ils dorment deux fois plus quand on parle anglais que quand on parle allemand. Mais malgré tout, il y a une force qui pousse dans ce sens-là.
Oui.
Et l'allemand s'est beaucoup moins bien défendu que le français. Qui lui-même ne se défend très imparfaitement.
Oui, oui.
Mais la disparition de l'allemand au cours de ma vie, c'est quelque chose d'assez spectaculaire.
Ah oui, ça c'est une chose qu'on ne sait pas suffisamment ici, qu'on ne dit jamais d'ailleurs. C'est cette faiblesse de l'allemand vis-à-vis de l'anglais, c'est une chose qu'on ne sait pas.
C'est bien pire que notre faiblesse vis-à-vis du français, et je ne sais pas très bien pourquoi. Alors s'il y a une explication simple, parmi beaucoup d'autres, c'est le fait que les Allemands aient perdu leur empire colonial en 18. Donc ils n'ont pas d'auteurs francophones, comme nous en avons, du Maghreb, d'Afrique noire, des Antilles, et même, au-delà de, même au-delà des territoires proprement anciennement français, il y a toute une francophonie qui n'existe pas chez les Allemands.
Il y a pourtant 100 millions d'habitants, pas loin, hein, je crois. 100 millions d'habitants, ça pèse un poids quand même.
Un poids linguistique. Les gens parlant bien français aujourd'hui à l'étranger sont approchent des 300 millions.
Oui, tout de même, oui.
Et sans parler de ceux qui le parlent un petit peu, pour leur métier, ont besoin de trois mots de temps en temps. Et puis, il y a des pays où tout ce qui s'écrit en français.
Oui.
Même si les gens ont une autre langue maternelle. Et puis, ce qui est encore moins bien connu, c'est que... Mais là, je sors de mes mémoires, pardon.
mais c'est intéressant.
Ce qui est moins bien connu, c'est qu'il y a des pays, des zones entières d'Afrique, où le français est langue maternelle, tout simplement.
Voilà.
Alors, les professeurs ou les politiques... anticolonialistes se posent des questions de comment enlever le français, cette langue coloniale. Ben, on dit, mais quelle langue vous parlez vos parents? Quelle langue vous parlez avec vos parents, vos frères et sœurs? Ben, on parle en français. Donc c'est plus une langue coloniale, c'est votre langue. Oui, bien sûr, mais, etc. Et alors que le bon peuple ne se pose pas ces questions.
Ben, évidemment.
Alors ça, c'est vrai à Abidjan, c'est vrai au Gabon, c'est vrai dans certains coins du Cameroun, mais ce n'est pas vrai partout, bien sûr.
Ouais. Vous écoutez Radio Courtoisie.
Bon, je vais interrompre un petit peu avec Yves Bonsenet pour donner la parole maintenant à Pierre, qui n'a pas encore ouvert la bouche.
Ça, c'est vrai.
C'est quand même catastrophique, ça. Il faut protester.
Mais je voulais quand même ajouter à ce que vient de dire monsieur que j'ai joué beaucoup les personnages en Allemagne, moi, parlant allemand, ayant le physique d'un arien. J'ai arrêté au bout de 3 films, quand même. Vous vous souvenez déjà.
Alors, c'est un extrait des mots de la langue, mon cher Pierre.
À propos d'un mot crédible, faut-il ou non adopter cet adjectif qui, jusqu'à ces dernières années, ne figurait dans aucun dictionnaire de langue française?
Oui, alors là, ça, j'ai écrit ça, disons, en 90 ou 92. Je ne sais pas, maintenant, je n'ai pas vérifié. Mais à l'époque, crédible n'existait
crédible,
nulle part.
Oui.
Alors que crédibilité...
Ah bien sûr, ça vous en parlez après. Ouais. Sous ses allures, bien de chez nous, en effet, le mot est un envahisseur, pareil à ces extraterrestres, chers aux amateurs de science-fiction, caméléons de l'espace galactique, se glissant dans notre enveloppe humaine pour nous coloniser. En dépit de sa parenté avec crédibilité et de rares surgissements, avant le XVIIe siècle, crédible n'est que l'anglais « credible », dont nous étions fort bien passés jusqu'en 1965, date à laquelle, selon le petit Robert de 1987, qui l'accueille, il s'est introduit subrepticement dans nos cerveaux. Qu'employait-on avant 1965 pour dire la même chose? Selon les cas, croyable, vraisemblable, plausible, fiable. En gros, ce qui relève de cet adjectif superflu se partage en deux catégories. Les êtres en qui on peut ou ne peut pas croire dans tel ou tel domaine, autrement dit, qui sont ou ne sont pas fiables, 12e siècle, et les paroles, propos, histoires, documents, etc. À quoi le sens commun nous permet ou ne nous permet pas d'adhérer? Montaigne parle d'arguments plausibles, ce qui est vraisemblable est vrai, quelquefois, écrit Voltaire. C'est un homme peu fiable, cite le Littré. Dans ces trois exemples, aujourd'hui, on rabâcherait crédible, appauvrissant ainsi le vocabulaire, perdant ses nuances et sa variété.
Merci Pierre.
Et cet extrait des mots de la langue de Michel Mourlet aux éditions France Univers.
Pierre, puisque nous sommes... ensemble, pour le moment. Est-ce que vous avez un petit poème à nous dire?
J'ai un petit poème, mais il est long, ce petit poème
il
aussi.
Long,
Catherine le connaît.
Oh là là.
Alors, il n'est pas très long.
On peut quand même le dire.
Mais je pense que oui.
Oui, hein, allons.
C'est une fable même.
C'est une fable.
C'est une fable. Ah.
C'est la fable de l'éponge et de la faille.
C'est un hommage à notre bon La Fontaine.
Exactement.
Bien.
Sans prétention. Il y a quelques milliards d'années, une première cellule, qu'on a appelée l'éponge, s'est développée. À partir de ses pores inhalants et exhalants, qui a donné naissance à cette hominidée, notre ancêtre, et qui ne s'est rempli que de lui-même, comme l'éponge, pour générer son propre développement. Ce sont des scientifiques, hein, je cite là des scientifiques.
Oui, oui.
C'est la fable de la faille et de l'éponge, qui pour trouver son évolution se serait vidée d'elle-même, et pour se développer se serait démultipliée grâce à cette faille pour trouver sa lumière. C'était une éponge au fond de la mer, il y a quelques milliards d'années, qui cherchait à se nourrir et qui n'a trouvé qu'une seule petite goutte d'eau d'elle-même à absorber pour se développer et se reproduire. On peut la comparer à cette hominidée qui est arrivée il y a quelques milliards d'années plus tard et qui cherchait la faille pour trouver sa lumière et qui n'a trouvé qu'une goutte de lui-même pour se reproduire, sans la possibilité de se régénérer au-delà de ses propres limites. L'éponge est vraiment le symbole même de l'homme qui n'a eu de cesse d'effacer, d'éponger, de passer l'éponge sur le tableau noir de ses actes pour pouvoir garder le pouvoir et tenter de se développer à part le risque de disparaître au fond de la mer qu'il avait fait naître. C'était donc la lumière qu'il avait fait naître, l'éponge. Puis l'hominidée et cette engeance humaine qui n'a eu de cesse d'utiliser cette lumière pour se développer et qui a vite disparu derrière les rideaux de fumée du développement et de l'industrialisation du monde. Quand je vois un quidam, je l'imagine gonflé de lui-même, et je pense à l'éponge qui cherche sa lumière pour apparaître plus important qu'il n'est, prêt à tout et prêt à rien pour ne pas mourir.
Merci Pierre, nous avons beaucoup apprécié cette petite fable. Je voudrais juste vous faire un reproche, petit reproche, parce que c'est une chose que j'ai souvent évoquée à ce micro, c'est que vous avez utilisé démultiplier dans le sens de multiplier. C'est que c'est le contraire. Démultiplier, c'est par exemple une vitesse qu'on démultiplie, et une vitesse inférieure à la vitesse précédente. Le dé est privatif. Or, tout le monde fait la faute, donc vous êtes excusable.
Mais je la comprends très bien. Voilà. Ce serait multiplié grâce à cette faille.
Voilà.
Vous modifierez alors.
Non, mais vous êtes tout à fait excusable parce que tout le monde fait cette faute. Je l'entends à longueur de journée. Hein. Voilà.
Multiplié, oui, tout à fait.
Bon, nous avons encore combien de temps 5 minutes 6 minutes
Nous avons 10 minutes.
Nous avons 10 minutes.
Nous avons 10
c'est
minutes.
Parfait.
Bon, causez.
Au sujet donc de votre parcours, est-ce que vous pouvez continuer un peu à nous le décrire ou bien est-ce que vous préférez qu'on passe à quelque chose de plus général sur la francophonie, parce que vous étiez bien parti là sur des choses qu'on ne sait pas finalement là, concernant la langue allemande, etc. Non, mais on peut continuer à parler de votre itinéraire, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après?
Voilà. Donc là, je me suis arrêté en 54, au moment où je passe sur Le Monde, et où je remarque un article sur l'Algérie que je ne connaissais pas du tout, sauf je connaissais la Tunisie, donc c'est très différent, mais je savais ce que c'était que Le Monde arabe. J'avais un oncle pied noir très très bien adapté au pays, pas du tout le pied noir méprisant, mais au contraire, le pied noir bien...
Oui, pas le petit blanc, comme on dit.
Pas le petit blanc.
Voilà.
D'ailleurs, il est devenu entrepreneur, et je crois que c'est lui qui a sauvé l'agriculture tunisienne. C'était un petit pays à l'époque. Mmh. Et donc, voilà une histoire bizarre, que tout le monde connaît maintenant. On est le 1er novembre 54, et des terroristes arrêtent un autobus pour tuer le passager qui était un notable musulman. Donc, on est en 54, donc un musulman forcément côté français. La question ne se posait pas à l'époque. Mmh. Et le tue, un autre passager, instituteur, veut s'interposer, il est tué aussi, sa femme est blessée, et je n'ai pas très bien compris les temps et les aboutissants, mais je me suis dit, une histoire qui commence par le meurtre d'un instituteur, ça va forcément mal tourner.
Ouais.
Et alors ensuite, je ne compte pas la guerre d'Algérie, que j'ai compris que petit à petit, et avec beaucoup de perplexité, de dégoût, parce que chaque camp avait l'habitude de dire « on tue mes partisans, donc j'ai raison ». Entre-temps, j'étais devenu matheux et scientifique, et ça m'apparaît toujours un peu bizarre comme argument.
Oui, c'est vrai.
Et ce qu'on a oublié, c'est qu'il y avait beaucoup de camps. Bon, après, ça s'est simplifié par la force. Hein. C'est-à-dire que bon, le FN a pris le contrôle de la population musulmane, la population européenne est partie, et ça s'est simplifié par la force. Pour rejaillir aujourd'hui.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas mettre la main sur un peuple pendant des années sans qu'il se passe quelque chose après. Bien. Et il s'est passé beaucoup de choses. Donc, mais là, j'anticipe sur ce qui s'est passé après, et j'ai essayé dans ce texte d'écrire pas à pas ce que je découvrais pas à pas.
Voilà.
Alors un témoignage brut d'un gendarme, les récits de parents de rappelés, des choses comme ça. Et puis petit à petit, ça se construit, et pour l'instant, je m'arrête à l'arrivée de Gaulle. Donc je connais bien la suite, puisque non seulement j'ai vécu à ce moment-là, j'étais beaucoup plus grand, j'ai vécu au jour le jour, et puis j'ai lu mille ouvrages dessus, et je suis en train de lire l'ouvrage d'Alain Perfit,
ah oui,
qui a pris des notes de tous les conseils de ministres où il était.
Oui.
Et il dit, j'attends le contrôle, lorsque ces textes seront déclassifiés, c'est-à-dire bientôt maintenant, et vous pourrez voir que ce que j'ai dit est bien vrai. Et c'est extrêmement intéressant au jour le jour. Enfin, je ne vais pas me lancer dans ce qu'a fait De Gaulle au jour le jour dans ses conseils des ministres. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Il y a les paroles des différents ministres, dont Giscard par exemple.
Ah oui.
Et donc, maintenant, je pourrais écrire de façon différente en disant voilà ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas du tout.
Eh ben. Bon, on a encore 4 minutes. Hein. Alors, j'ai quelques messages dont il faut essayer de tenir compte malgré le peu de temps qui nous reste. Je voudrais d'abord, avant tout, vous demander des références de votre site. Au cas où on serait précipité pour la fin de l'émission, il faut que nos auditeurs sachent où prendre connaissance de ce texte, de votre
D'accord.
site.
Ils peuvent prendre connaissance donc des quatre épisodes qui se terminent pour l'instant en 58, mais c'est provisoire.
Oui.
Et le site a un nom très simple, c'est Yves Montenay, tout attaché.
Oui.
Pas de point entre le Yves et le Montenay. Yves Montenay.
A-Y,
Montenay. M-O-N-T-E-N-A-Y.
N-A-Y, vous avez raison, c'est une faute d'orthographe qui arrive souvent. Vous avez tout à fait raison. Et Montenay, pour ceux qui aiment bien l'étymologie, ça veut peut-être dire le mont du tonnerre ou le mont tonnant.
Donc, le Y est à la fin
Oui, Montenay.
Ça, c'est une variante géographique, c'est pas une variante de sens.
Il
n'y
a pas de point entre Yves et Montenay.
C'est bien ça. Il n'y a pas de point. Voilà. Donc, je représente le mont du tonnerre. Le mont
Donc, c'est tout simplement yvesmontenay.fr.
C'est tout.
Très bien. Bon, un auditeur écrit... On peut tout reprocher au Parti communiste, mais ils étaient d'excellents défenseurs de la langue française. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cher Yves Montenay ?
Eh bien, De Gaulle est un grand écrivain.
Non, mais le Parti communiste.
Ah, le Parti communiste.
Non, on peut tout reprocher au Parti communiste.
J'ai entendu gaulliste.
Non.
C'est dès que je suis.
Au Parti communiste.
Eh bien, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Moi, je me souviens de discours en langue de bois, pas très élégant.
Oui, Georges Marchais n'était pas un grand défenseur de la langue française.
À mon avis, non.
Bon, non.
Le Parti communiste français a été relativement nationaliste à certains moments. Est-ce que ça s'étendait à la langue ? Ça ne me rappelle rien. Bon, il y avait Aragon, bien sûr, mais c'était autre chose.
Oui.
Et non, je n'ai pas été frappé par la légèreté du style, par la poésie des proclamations.
Ils auraient pu défendre, comme ils le font maintenant, la langue française contre l'envahisseur américain. C'était ça, plutôt, la thématique, en somme.
Oui,
la thématique naturelle.
Ça aurait pu être la thématique. Mais je reviens à mon De Gaulle une seconde. Dans un de ses conseils des ministres, il tonne contre les noms anglais, en 62.
Ah oui.
Tonne contre l'arrivée des noms anglais.
Ah, mais il avait interdit le whisky dans les réceptions à l'Élysée pour le remplacer par du cognac. Ça, c'est une chose qui nous avait frappé. Hein.
C'est vrai.
Oui.
Il s'est battu avec les Anglais pour qu'il y ait un E à Concorde.
Ah ben voilà. Alors, donc, ce monsieur continue, poursuit. Dans des émissions passées, il y a quelques années, il y a eu des gens du Parti communiste et de la CGT qui se sont déplacés exprès pour ça à Radio Courtoisie. C'est vrai que peut-être qu'il y a une époque où il y avait moins de cloisons étanches qu'aujourd'hui. Mais il y a à l'envers du décor, il y a un état d'esprit dans le Parti communiste. Il y a un état d'esprit dans le Parti communiste. Mieux vaut une mauvaise démocratie qu'une bonne dictature fasciste. Oui, bon, évidemment, c'est certainement ce qu'ils disent, mais ils ne parlent pas non plus beaucoup de démocratie. Hein. Bon, enfin, merci pour votre belle émission, etc., etc. Bon, il nous reste une minute. Je voudrais vous demander simplement, Yves Montenay, si vous envisagez de publier ces souvenirs dans un livre, sur papier, voilà, parce que c'est quand même aussi une manière d'exister, de faire exister un texte qui n'est pas négligeable.
Oui, alors j'ai pris l'habitude de mon temps qui est de penser que quand c'est sur Internet, c'est comme si c'était publié, puisque tout le monde peut le lire, et qu'un livre, ça se diffuse pas si facilement. J'ai écrit 5 ou 7 livres, je ne me souviens plus, qui ont été vendus à, dans le meilleur des cas, quelques milliers d'exemplaires.
Oui, ben c'est très bien.
Et c'est très bien, mais un article, je fais des articles 3-4 par mois, ils sont lus par 2000 à 100 000 personnes, ça dépend du thème. Si ça tombe pile sur
ça n'a rien à voir, évidemment.
Alors c'est plus facile d'écrire 10 fois 2 pages, au-delà les gens lisent plus.
Bon, c'est terminé. Nous vous remercions pour ces explications. On espère tout de même, tout le monde espère que vous allez publier un livre et que ça restera comme ça dans les annales plus aisément que dans les canaux d'Internet.
Nous retrouvons, chers auditeurs, le lundi 15 octobre. Voilà, je rappelle le titre quand même de votre chronique, « Regard d'un gamin sur le siècle ».
Merci à nos invités, merci à nos auditeurs. À bientôt, au revoir.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre « Français, mon beau souci » de Michel Mourlet, assisté de Catherine Distinguin, diffusé en direct lundi 17 septembre 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.